Nous avons dit que l'apostasie naissait de trois causes. La déformation de l'écriture, nous avons vu comment. L'intrusion de la chair, c'est-à-dire de l'homme, de la volonté de l'homme, de sa nature première au milieu des choses qui sont de l'esprit, n'est-ce pas ? L'intrusion de la chair, et puis l'introduction du paganisme. Cela aussi, nous avons vu ces différentes causes. Et il nous reste à voir comment le chrétien devra se prémunir contre l'idolâtrie. Il faut absolument, et Dieu le veut, qu'il se prémunisse. Bien sûr, Dieu a disposé les armes nécessaires à cela. Mais encore est-il qu'il faut que le chrétien les utilise, et toujours par le même moyen, par le moyen de la foi. Il faut que le chrétien exerce ce que l'Écriture appelle la vigilance. Mais avant de parler de vigilance, il nous faut encore voir du côté de ce qui est le mal, ce que la Bible nomme l'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie, pourrait-on dire, est-elle véritablement quelque chose qui s'apparente à l'apostasie? Mais bien entendu, oui. L'apostasie, nous avons vu les causes, n'est-ce pas? Mais les effets, les développements de l'apostasie se rencontrent essentiellement dans tout ce qui est idolâtrie. Le terrain favorable à l'apostasie, et je rappelle que apostasie, c'est l'action, disons, de se détourner de la foi. Se détourner de la foi. Eh bien, se détourner de la foi, c'est se détourner de Dieu et se tourner vers des idoles. L'homme, quelqu'un l'a dit, n'est-ce pas, un grand auteur, est un animal religieux. C'est-à-dire que s'il n'adore pas le vrai Dieu, il va adorer quelqu'un ou quelque chose d'autre. Il ne peut pas rester sans adorer. Et cela, je l'ai montré ici il y a quelques années avec des documents concernant des grands noms de la science, des lettres, de la philosophie, qui donnaient en quelque sorte leur propre témoignage de vie, n'est-ce pas, et qui montraient que dans leur position de soit d'agnosticisme, soit d'incrédulité, ils avaient des objets vers lesquels ils se tournaient et ils tournaient toutes les aspirations de leur être, c'est-à-dire une véritable adoration. On trouve donc de l'adoration chez les incrédules, ceux qui ne veulent pas de Dieu, se sont tournés vers les faux dieux. Alors, nous allons regarder assez rapidement l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est le culte des faux dieux, ou des images, ou encore des statues qui les représentent. Ça, c'est le sens connu, le sens facile, hein, le culte des statues, le culte des faux dieux, et même, disons, que la représentation de Dieu lui-même, sinon, parce qu'on l'a faite quelquefois cette représentation, la représentation de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Si on se prosterne, si on adore cette représentation, c'est tout simplement un acte d'idolâtrie. Mais malheureusement, il arrive que l'on s'arrête trop à cette vue première sur l'idolâtrie. L'idolâtrie, le culte des statues, des faux dieux, bon, alors on a fait en sorte que chez soi il n'y ait plus rien, aucun objet qui puisse favoriser l'idolâtrie, ou tout au moins la rappeler, n'est-ce pas? Statuette, statue ou autre objet, n'est-ce pas? On a tout évincé lorsqu'on a compris l'Évangile et qu'on a reçu le Seigneur Jésus dans son cœur. C'était très bien de le faire. Il le fallait. C'était très bien de le faire. Mais l'idolâtrie ne se borne pas à cela. Dans l'Ancien Testament, nous avons des différents termes et une désignation d'une foule d'objets qui constituent l'idolâtrie. Très rapidement, je vais les rappeler. Il y a d'abord, bien entendu, les images taillées représentant les faux dieux. Il y a les théraphimes, c'est-à-dire ces petites statuettes que l'on mettait même dans les bagages et qui étaient les dieux domestiques. Il y a les choses de néant, d'une façon très vague, les choses de néant, les objets de terreur, les astres, les ancêtres, certaines fontaines, des fontaines devant lesquelles on venait se prosterner, des arbres, des pierres, le veau d'or, d'autres animaux aussi, les Baals, Astarté prend une place considérable, prenait une place considérable dans l'idolâtrie des précédentes dispensations. Astarté, qui était souvent figuré par le soleil et la lune ou par des symboles. Il y avait aussi les déifications des forces de la nature, le culte de la débauche et de la cruauté, car la débauche et la cruauté recevaient un véritable culte. La prostitution, il y avait une prostitution sacrée, les sacrifices d'enfants, considérés aussi comme des actes sacrés, le culte à la reine du ciel, qui a une grande place aussi dans l'Ancien Testament. Il y a aussi l'idole de la jalousie, on peut se rendre compte qu'il s'agit encore là d'Astarté, l'idole de la jalousie, le serpent des reins, lui-même, Néustan, on l'avait baptisé Néustan, le serpent des reins que Dieu avait demandé à Moïse de mouler, n'est-ce pas, et de le placer dans le haut d'une perche, dans la circonstance que vous connaissez sans doute, n'est-ce pas, celle où des serpents brûlants avaient causé parmi le peuple beaucoup de morts. Alors, pour arrêter ce fléau, répondant à la prière de Moïse, Dieu avait dit, eh bien, fais un serpent d'airain, mets-le au bout d'une perche, quiconque portera son regard sur ce serpent sera guéri de la morsure mortelle de ce serpent. Et c'est ce que Moïse avait fait, tous ceux qui regardaient le serpent des reins étaient guéris, et vous savez qu'il y a là un excellent enseignement à prendre, mais lorsque il n'y eut plus dans le désert de serpents brûlants, ce ne fut qu'un moment, un passage, n'est-ce pas, lorsqu'il n'y eut plus de serpents brûlants, n'avait aucun besoin, n'est-ce pas, du serpent des reins. Alors certainement il avait été descendu de sa perche et puis mis dans quelque coin, mais on l'avait conservé dans les bagages du peuple, et il est arrivé par la suite qu'on ait ressorti ce serpent des reins. C'était un objet que Dieu avait donné, quelque chose que Dieu avait donné pour le bien et le salut des hommes. Eh bien, on l'a baptisé, on l'a appelé Néustan, et on s'est prosterné devant lui. Vous voyez, comme le penchant du peuple à l'idolâtrie était puissant. Et alors, chose horrifiante que l'on rencontre dans l'Ancien Testament, c'est la confusion entre le culte rendu à Yahvé, rendu à l'Éternel, et le culte rendu à des faux dieux. Le culte rendu aux dieux d'Israël se trouvait souvent associé à certaines formes d'idolâtrie. Et c'est ce que le prophète Élie, je crois, 1 Roi 18, 21, c'est ce qu'il appelait clocher des deux pieds. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Par là, n'est-ce pas, Élie voulait stigmatiser ce mal qui consistait à entretenir de concert tant le culte du vrai Dieu que le culte de Baal. On pratiquait les deux et même on les mélangeait. On en faisait quelque chose, un ensemble hétéroclite nouveau, n'est-ce pas? Et cela est apparu plusieurs fois dans l'histoire du peuple d'Israël. Cette confusion des deux cultes a toujours été un grand danger parce que elle correspond à la duplicité de l'homme qui ne veut pas avouer toujours, ne veut pas toujours avouer qu'il rejette Dieu et sa parole et en conservant tout de même le culte de Dieu, du vrai Dieu, il entend montrer qu'il demeure dans la fidélité tout en pratiquant l'idolâtrie. Il demeure dans la fidélité tout en pratiquant l'idolâtrie. Et on verra ça, bien entendu, dans le christianisme traditionnel. Hein, on prétendra servir Dieu comme il convient, s'inspirer de l'Évangile, mettre l'Évangile en pratique, mais à côté de cela, on fera tout ce que l'Évangile défend. Voilà cette confusion, voilà ce mariage, n'est-ce pas, de deux cultes qui est l'apostasie, bien entendu, dans toute son acception. Les faux dieux, dans l'histoire d'Israël, ont même fait leur entrée dans le temple de Jérusalem. À certains moments, on les trouve dans le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem se remplit de faux dieux et de statues là où, il devrait être exclu qu'on les trouve. C'est une véritable provocation à Dieu, car on sait qu'il y a une chose qui est en horreur à l'Éternel par-dessus tout autre, c'est bien cela, l'idolâtrie. Eh bien, nous avons fait cette revue-là, elle était nécessaire pour aller plus loin dans l'examen des formes prises par l'idolâtrie et des formes prises maintenant, à notre époque encore, car il est bon que nous sachions en quoi consiste ce danger d'idolâtrie. Le Nouveau Testament ne parle pas beaucoup d'idole ni d'idolâtrie. Le mot y figure très peu. Il nous est dit, par exemple, petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Ça, c'est Jean qui dit cela, fuyez l'idolâtrie. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il y ait une large insistance, tout au moins apparemment, dans le Nouveau Testament. Parce que les formes d'idolâtrie sont tout à fait subtiles. Elles sont devenues subtiles. Du temps d'Israël, Jérémie pouvait dire « Ô Judas, tu as autant de dieux que de villes ». Mais dans la foi chrétienne, dans le service de Dieu, nous allons voir que l'idolâtrie réapparaît. Je ne veux pas parler cette conservation de l'idolâtrie que l'on trouve encore, n'est-ce pas, dans le catholicisme, le système romain, n'est-ce pas, l'institution romaine, où il y a, n'est-ce pas, des statues, on me dira, on les fait disparaître de plus en plus. Oui, en effet, on les fait disparaître, mais l'esprit, malheureusement, ne disparaît pas avec elles. Et en tout cas, il y en reste encore beaucoup trop de ces statues. Les saints sont toujours restés, eux, des personnages que l'on prie toujours, n'est-ce pas? La prière des saints n'a pas cessé, la prière de la Vierge non plus, même si on l'appelle une dulie ou une hyperdulie, n'est-ce pas? Tout cela n'a pas supprimé cette forme que j'appellerais grossière de l'idolâtrie. La forme grossière. Mais voyons les formes subtiles de l'idolâtrie. Il faut d'abord penser ceci, c'est que l'idolâtrie, alors cela nous concerne, n'est-ce pas, nous, qui avons voulu élaguer complètement n'est-ce pas, notre foi, notre piété, de tout ce qui était forme évidente ou grossière d'idolâtrie. Bon, mais attention, l'idolâtrie peut nous menacer encore. Et elle nous menace en effet. Parce que l'idolâtrie ne reste pas cantonnée au domaine religieux. L'idolâtrie s'empare de l'homme, de ses pensées, de ses activités, de ses passions, de ses penchants, de ses passions. L'idolâtrie s'empare de tout. Chaque fois que Dieu et le Christ ne sont pas le but de la vie d'un chrétien, celui-ci retombe dans quelque idolâtrie de son cœur. Si Dieu cesse d'être le but de sa vie, le but, lui, c'est pas, nous avons dit que le salut, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, en Jésus-Christ nous trouvons le Père, eh bien, si nous cessons d'avoir pour but de notre vie Jésus-Christ, si nous cessons d'adorer Dieu en Jésus-Christ, eh bien, ou si nous l'adorons moins, si cette adoration se perd, n'est-ce pas, il y aura certainement gain vers d'autres objets d'adoration, gain de la part de d'autres objets d'adoration. Et car l'homme prétendra alors pouvoir servir deux maîtres. Ça commencera souvent comme cela. Il servira deux maîtres. Il ne va pas renier son Dieu, renier la foi qu'il sait être la foi véritable, parce qu'elle est celle que l'Écriture sainte lui demande. Il sait que la révélation de Dieu l'a placé dans une piété qui est la vraie piété. Il sait qu'il doit y donner toute la force de son être, tout son cœur. Mais il ne redira pas cela, seulement il admettra un partage. Il commencera par un partage et finira par mettre quelque chose à la place du Seigneur. À quoi donne-t-on priorité en son cœur? C'est à cette question qu'il faudrait que l'on réponde lorsque l'on s'examine soi-même, s'examiner pour savoir si l'on est dans la foi, dit l'apôtre Paul. Eh bien, il faudrait notamment répondre à cette question, à quoi ai-je donné priorité en mon cœur? Voyons, à qui la priorité, vraiment, sans chercher à me leurrer, à me tromper, à se tromper soi-même, comme dit Jacques, n'est-ce pas? À qui ai-je donné priorité? Est-ce au gain, je cite, n'est-ce pas, quelques objets nouveaux d'intérêt, si vous voulez, d'affection, et peut-être d'idolâtrie? Alors, est-ce au gain, est-ce à l'argent, est-ce au luxe, est-ce aux distractions, est-ce aux convoitises de toutes sortes? Il y en a tellement aujourd'hui surtout. Eh bien, ce sont là des idoles qui peuvent être des idoles en puissance au début, mais qui deviennent des idoles par la suite. Elles prennent, en effet, ce qui devrait revenir à Dieu seul. Dieu, alors que l'on sait très bien que le Seigneur seul est la raison de vivre de l'homme. Le chrétien, c'est cela. Sa raison de vivre, c'est le Seigneur, c'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et, comme dit Paul par ailleurs, ma vie, c'est le Christ. Ma vie, c'est le Christ. Alors, si l'on déroge à cela, et que l'on accepte de donner priorité à d'autres objets, alors là, c'est certain que l'idolâtrie réapparaît. Mais elle est encore plus subtile que cela. Elle est très subtile, l'idolâtrie. On va, par exemple, accepter de mettre à la place du Seigneur des choses saintes. Des éléments, par exemple, de son œuvre, ou des personnes que l'on aura pris tout d'abord comme exemple, Ou alors l'institution elle-même, l'Église vue comme une institution, ou bien des traditions, et des habitudes. Il y en a quantité de traditions. Et on peut dire que le catholicisme romain n'est pas le seul à avoir établi des traditions. Il y a même de bonnes choses qui peuvent incarner le principe de l'idolâtrie, de bonnes choses comme la piété elle-même. C'est extraordinaire, mais il peut y avoir une piété idolâtre. La piété elle-même, et qui peut revêtir la forme idolâtre, quand ? Eh bien, quand elle glorifie l'homme. Chaque fois qu'elle glorifie l'homme, chaque fois, n'est-ce pas, que, au lieu de se glorifier dans le Seigneur, c'est l'homme qui, échappant un peu au Seigneur, se glorifie lui, ça y est. On est en pleine idolâtrie. Et nous allons lire Colossiens 2, 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, c'est-à-dire à tout ce que le monde possède à son esprit, à tous ces enseignements qui peuvent être plus ou moins religieux. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Et ça, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie pure et simple. Vous voyez là, n'est-ce pas, des formes de piété qui contribuent à la satisfaction de la chair. Et on pourrait en découvrir bien d'autres que celles dont l'apôtre donne ici l'exemple. Dans Romains 8 et verset 6, nous lisons « Et l'affection de la chair... c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Voilà, n'est-ce pas, là, en opposition, deux manières de marcher ou de vivre. Dans la vie chrétienne, n'est-ce pas, il s'agit là de chrétiens, il s'agit de gens qui ont été baptisés. Attention à l'affection de la chair, parce que l'affection de la chair, c'est-à-dire tout attachement à ce qui plaît à la chair, à ce que la chair demande à notre être elle-même, n'est-ce pas, la chair, c'est-à-dire l'homme naturel a des désirs, alors il va les faire savoir, ses désirs. Il va essayer même de les appuyer autant qu'il le pourra, n'est-ce pas ? Il va faire monter ses désirs au cœur et il va demander qu'ils soient satisfaits. Alors, si on les satisfait, ce sera l'affection de la chair. Satisfaire l'homme naturel, satisfaire la chair. Alors là, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Or, l'affection de l'esprit, c'est tout simplement la vie dans la communion avec Christ, c'est-à-dire, n'est-ce pas, alors là, la part entière abandonnée au Seigneur lui-même. Et il y a certaines œuvres de foi, des œuvres chrétiennes, des œuvres missionnaires, qui peuvent devenir des idoles, lorsque l'homme s'y complaît et y trouve des satisfactions dans un activisme qui le grandit à ses yeux, où il ne l'avouera pas toujours, mais il se verra maître d'une activité. Ah, il a réussi. Il sent le succès dans tout ce qu'il fait. De bonne heure le matin, il est debout. Il marche, il va, il donne des ordres. Et ça ronfle. Et il y a un développement. Alors, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le service de Dieu, dira-t-on. Mais l'homme s'y glorifie. L'homme s'y glorifie. Eh oui. Malheureusement, cela arrive, n'est-ce pas? L'homme s'y glorifie. Cela le grandit. Alors, il y a là, bien entendu, une forme d'idolâtrie qui peut devenir excessivement grave, et l'on a vu des hommes qui, pendant une bonne partie de leur vie, ont travaillé vraiment dans des œuvres de Dieu, pas tous, bien entendu, heureusement, mais certains qui ont travaillé, n'est-ce pas, et qui ont fini dans l'orgueil, le plus terrible, dans l'orgueil, parce que, en réalité, dans une œuvre qui avait réussi, qui avait même bénéficié non seulement de leurs dons spirituels, de leurs dons ou de leurs qualifications reçues du Saint-Esprit, n'est-ce pas, mais de leurs dons naturels aussi. Il y a des hommes qui ont mis beaucoup de leurs dons naturels, n'est-ce pas, et les dons naturels, cela existe. À des hommes qui ont véritablement, sur le plan humain, des capacités magnifiques et qui mettent cela au service d'une œuvre chrétienne, d'une œuvre d'évangélisation, d'une œuvre missionnaire. Mais alors, attention, bientôt, les voici juchés sur un piédestal, n'est-ce pas ? Et alors, ce que Jésus a refusé, eux, ils l'acceptent. Jésus a refusé d'être roi, Jésus a refusé d'être mis en évidence, et il s'est enfui vers la montagne quand on a voulu le faire roi. Mais eux, ils acceptent, ils restent là. Et bien entendu, alors, c'est l'idolâtrie. Vous voyez, n'est-ce pas, comment l'idolâtrie peut réapparaître même dans l'œuvre de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 6. Au verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. » Nous avons là la distinction entre les œuvres qui constituent une propre justice, parce que les œuvres qui constituent une propre justice, attention, elles peuvent réapparaître chez le chrétien, aussi, pas seulement chez l'incrédule ou chez celui qui n'est pas encore converti, chez les inconvertis, mais chez le chrétien est capable encore de faire des œuvres de propre justice, où il verra son mérite, n'est-ce pas? Il y trouvera son mérite, il le verra. Attention, ça, ce sont des choses qui se produisent. Alors là, il y a la distinction faite entre ces œuvres qui constitueraient un mérite dans lequel l'homme se trouverait bien, dans lequel l'homme se glorifierait, dans lequel l'homme se verrait même, juste il verrait la manifestation de sa sainteté, de son dévouement, n'est-ce pas, de son pieux dévouement. Si c'est pour des choses qui périssent, pour la nourriture qui périt, alors cela ne vaut rien. Ne travaillez pas pour ça, dit le Seigneur. Mais travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et cette nourriture, vous savez que par nourriture, le Seigneur a voulu dire œuvre. N'est-ce pas ? Déjà devant la, dans l'histoire de la Samaritaine, Jésus avait dit à ses apôtres, « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et il parlait de son œuvre. Donc, nous pouvons entendre ici, n'est-ce pas, l'œuvre. Alors, travailler pour une œuvre, en somme, qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Il faut que ce soit le Fils de l'homme qui vous donne. Il faut se soumettre constamment au Fils de l'homme. Il faut être l'adorateur en esprit et en vérité pour être dans le service en esprit et en vérité. En dehors de ça, l'homme immédiatement va relever la tête, et c'est lui qui va se glorifier. Et l'on peut dire que Dieu regarde l'Église comme il regardait Israël. Nous allons voir dans Jérémie 7, 21, comment Dieu parlait au peuple d'Israël. Jérémie 7, 21. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair, car je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière, et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin, mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Chers amis, quand Dieu dit, n'est-ce pas, ici, avec cette rigueur, je n'ai point parlé à vos pères, je ne leur ai donné aucun ordre au sujet des holocaustes et des sacrifices. Pourtant, si, Seigneur, tu avais bien donné des ordres pour les sacrifices et les holocaustes. Tu avais donné des ordres, ils sont là, consignés dans le livre de la loi. Ils sont là. Oui, mais le Seigneur dit ici, je ne leur ai rien donné. Pourquoi ? Parce que leur cœur est détourné de moi. Alors ils continuent à faire ces sacrifices. Ils continuent. Le Seigneur leur dit, ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair, mangez-en vous-même la chair, n'est-ce pas ? Ça ne m'intéresse plus ce que vous faites là. Ça ne m'intéresse pas. Dieu ne veut pas voir cela parce que votre cœur s'est détourné de lui et que vous n'êtes point fidèle, vous êtes dans la désobéissance. Alors vous pouvez continuer les formes de la piété, vous pouvez aller, marcher. Ça ne m'intéresse pas, Dieu ne regarde pas. C'est extrêmement sévère, évidemment, tout cela, n'est-ce pas ? Il est évident qu'il y a là une grande sévérité. On peut dire que Jérémie a été chargé ici de fustiger le peuple, de le châtier. Le ton est vif, mais Dieu montre vraiment sa colère. Nous pouvons dire par conséquent que tout dévouement, toute piété ou toute habitude, tradition ou habitude, vous savez, la tradition n'est quelquefois qu'une habitude acquise, eh bien tout dévouement, toute piété ou toute habitude, qui devient une fin en soi, comme l'étaient les sacrifices et les holocaustes. Le peuple ne voyait plus que ça. Il fallait faire des sacrifices, il fallait réaliser les holocaustes, tout cela, n'est-ce pas ? Avec le cérémonial, oui, très bien. Et c'était, il y avait en cela une fin, un but. Le but, c'était cela. Le but n'était pas de se sanctifier, le but n'était pas de plaire à Dieu, d'adorer Dieu, donc le but, c'était de réaliser cela. Chaque fois, donc, je le répète, qu'une piété quelconque, une tradition, n'est-ce pas, ou même un réel dévouement devient une fin en soi, ou si vous voulez, n'est-ce pas, toute piété qui se présente en notre cœur comme étant, ayant en elle son propre but, n'est-ce pas ? Si nous mettons le but dans la piété, si nous mettons le but là, si nous mettons le but, par exemple, dans nos réunions, dans notre assemblée, dans nos chants, dans tout ce que vous voudrez, nos rencontres, si nous mettons le but là, ou le but dans le fait que nous pouvons nous dire chrétiens, si nous, le but est là, Dieu ne veut pas accepter. Dieu n'accepte pas. Dieu n'acceptera pas parce que c'est alors que ce dévouement, cette piété ou cette habitude qui porte son propre but devient une idolâtrie, Tout simplement, c'est une idolâtrie. Cela devient en effet une œuvre de la chair, une bonne œuvre, des bonnes œuvres. Nous retombons, n'est-ce pas, dans l'ornière, des bonnes œuvres, non pas celles de l'esprit, mais des bonnes œuvres de la chair, et non plus les œuvres qui attestent la foi. Et la foi, elle, elle est toujours portée vers le Seigneur. La foi authentique, c'est la foi vers le Seigneur. Et cela nous amène à comprendre, chers amis, comprendre pourquoi il arrive que le Seigneur, lui-même, frappe ce qui est son œuvre, ou tout au moins ce qui semble être son œuvre. Pourquoi il laisse les circonstances, des circonstances adverses, frapper son œuvre. Il faut le comprendre. Le Seigneur ne protège plus. Il ne protège plus ce que nous regardons comme son œuvre, comme son Église, comme son évangélisation, dès que l'activisme est là. L'activisme de la chair est là, bien installé, à glorifier l'homme, à glorifier les organisateurs, dès que, au lieu de glorifier le Seigneur, l'homme se glorifie lui-même par le moyen de l'œuvre qu'il appelle l'œuvre du Seigneur. Dieu permettra que l'adversaire paraisse l'emporter sur l'Évangile, car l'homme est occupé à chercher sa gloire sous le manteau du dévouement au service de Dieu. Parce que Dieu entend être et rester la raison unique de toute chose. Et il veut que l'on recherche donc sa gloire, c'est-à-dire rechercher la gloire de Dieu, n'est-ce pas? C'est rechercher Dieu. La gloire et Dieu, n'est-ce pas? C'est tout un. C'est rechercher Dieu. Alors, il faut faire, bien entendu, la distinction entre le Seigneur, la gloire du Seigneur, et les choses qui composent le service du Seigneur. Le but, c'est le Seigneur. Le service, lui, n'est pas un but. Il n'y a pas de but à atteindre dans l'Église elle-même. Elle n'est pas un but, elle n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas un but, l'Église. C'est une voie, c'est un moyen, c'est un terrain d'action. C'est la voie pour aller au Seigneur et pour l'aimer. Et vous savez, quand l'homme, il faudrait bien se rappeler cela, nous allons terminer sur cette constatation maintenant, il faudrait bien se rappeler ceci, c'est que toute œuvre que nous pouvons faire ici-bas, œuvre d'évangélisation, œuvre de témoignage, œuvre de construction de l'Église, n'est-ce pas? Nous sommes ouvriers avec Dieu pour construire l'Église. Magnifique! Dans la mesure où l'homme se glorifie dans le Seigneur, ou c'est autrement dit le Seigneur qui est glorifié, lui seul. Il ne cherche pas sa propre gloire, mais il cherche, comme Jésus le disait pour lui-même, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Et Jésus disait des hommes qui cherchaient leur propre gloire, ces hommes-là ne sont pas vrais. Parce que un homme est vrai selon Dieu, quand il cherche la gloire de Dieu, uniquement comme cela. Voyez Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Il faut qu'il croisse, lui, et que moi je diminue. Quelle merveille, ça! Quelle merveille! Cet effacement! Cet effacement! Son temps était arrivé, n'est-ce pas? Il accepte de s'effacer. Mais c'est l'esprit, cela! Et quand on voit aussi un certain Lévi, par exemple, Matthieu, n'est-ce pas? L'évangile de Matthieu est dû à Lévi, un certain Lévi. Et qui écrit l'évangile de Matthieu? C'est lui qui l'écrit, c'est lui l'écrivain sacré, l'écrivain que Dieu a choisi pour cet évangile. Eh bien, il dit, le Seigneur fut invité dans une maison. Il vint dans une maison où il était invité. C'était la sienne. Combien de gens auraient pu, à sa place, n'est-ce pas, écrire « Le Seigneur était invité dans une maison, c'était ma maison, le Seigneur vint chez moi, n'est-ce pas, c'est chez moi, je le reçus dans ma maison, je lui ouvris la porte, etc. » Voyez, n'est-ce pas, l'effacement, l'effacement, je donne ça comme un des exemples, il y en a plus d'un dans les Écritures, l'effacement de cet homme, n'est-ce pas, qui dans son évangile, c'est un autre évangile qui nous fait connaître, c'est chez lui, mais c'est pas le sien, n'est-ce pas, lui, le Christ fut reçu dans une maison, dans une maison. C'est magnifique cela. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est qu'en définitive, tout ce que nous aurons fait, et je pense à ce que nous aurons fait, n'est-ce pas, avec le Seigneur, par ce que le Seigneur, si vous voulez, nous aura donné de faire en travaillant avec nous, en travaillant, n'est-ce pas, en nous, l'Esprit, par nous, fera des actes, c'est ça qui s'appelle travailler pour la vie éternelle. Eh bien, malgré tout, tout ce que nous aurons fait de tel sur la terre, tout ça, chers amis, c'est, savez-vous ce que c'est? C'est peu de choses. Peu de choses. Alors, si encore, on y ajoute, n'est-ce pas, les prétentions de la chair à faire quelque chose, à amplifier l'œuvre de Dieu, à ajouter l'œuvre de Dieu, alors ça devient moins que peu de choses, n'est-ce pas? Regardez dans Matthieu 25, 21, Matthieu, nous pouvons lire, mettons aussi le verset 16 d'abord. Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Oh, tu as été fidèle en peu de choses. » L'homme pouvait penser, « Mais j'ai au moins 300, 400 personnes qui sont venues à la foi par mon moyen, n'est-ce pas? C'est moi qui leur ai prêché l'évangile, c'est moi qui ai prié, qui ai lutté pour les amener à la foi, pour les amener au royaume de Dieu, et ce sont des enfants de Dieu, et ils sont morts sauvés, ou ils vivent sauvés, n'est-ce pas? Il y en a même qui pourront dire plus que, peut-être que 200 ou 300. Et le Seigneur dira, c'est bien, tu as été fidèle en peu de choses. Pourquoi, chers amis, le Seigneur nous dit-il ça? Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est quand tu seras au ciel que tu auras beaucoup de, une grande œuvre à faire. Mais sur la terre, tu as peu de choses à faire. Pourquoi? Mais c'est parce que, si tu as été fidèle, et le Seigneur a travaillé par toi. Mais c'est pas toi qui as fait le travail. C'est le Seigneur, c'est la puissance de l'Esprit. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Pas grand-chose, rien du tout, tu aurais fait plutôt, n'est-ce pas, des choses négatives. Bon, eh bien, le Seigneur t'a utilisé, tu as été fidèle, tu as porté ta fidélité. Bon, c'est très bien, le Seigneur a pu se servir de toi, tu as été fidèle en peu de choses, mais tout le travail, c'est la force du Saint-Esprit qui l'a accompli. Alors, chers amis, n'est-ce pas, comment irions-nous nous glorifier et puis nous imaginer que nous aurons fait sur la terre beaucoup de choses? N'est-ce pas que, en des années, en des dizaines d'années, nous avons été ceci. Mais gloire à Dieu si nous avons pu servir longtemps le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais nous l'aurons servi dans l'effacement. Nous l'aurons servi dans l'humilité. Nous l'aurons servi sachant que le Seigneur aurait pu en prendre un autre à notre place. Il aurait peut-être mieux fait que nous. N'est-ce pas? Il aurait pu en prendre un autre de toute manière. N'est-ce pas? La grande part de l'action, elle revient à l'Esprit de Dieu. Et nous, nous avons été fidèles en peu de choses. Alors vous voyez comme il ne faut jamais se hisser un petit peu, n'est-ce pas, de se mettre en valeur. Quand vous rendez compte du témoignage du témoignage que vous avez donné à quelqu'un et par lequel quelqu'un a été, mettons, intéressé à l'évangile, peut-être amené même à l'église. Oh, chers amis, soyez bien modestes en cela. Sachez que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait le travail. C'est pas tellement vous. Enfin, c'est le Saint-Esprit. Alors, ne vous glorifiez pas. Faites attention de ne jamais vous glorifier. Parce que l'on tombe très vite dans l'idolâtrie. Il m'est arrivé, hélas, de rencontrer des personnes chrétiennes qui étaient absolument insupportables. Quand vous les rencontriez, n'est-ce pas, elles vous accrochaient, elles vous tenaient, et vous étiez bon pour un discours d'une heure, n'est-ce pas, pendant lequel elles se faisaient valoir. Comprenez, quand je suis allé là, « Seigneur m'a dit, fais ceci, fais cela », alors je suis allé, et puis il y a eu 20 personnes étaient là, n'est-ce pas, elles sont tombées à genoux, elles ont été convaincues de péché, et puis alors je suis allé de tel côté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, n'est-ce pas. Hélas, il y a des chrétiens, n'est-ce pas, qui voyaient. Vous le voyez, n'est-ce pas, avec quelque chose qui est en soi excellent, comme le témoignage chrétien, font un objet d'idolâtrie. Un objet d'idolâtrie. Alors tout ça, n'est-ce pas, le Seigneur le dénonce, et il faut que nous prenions garde à cela, et nous allons pouvoir étudier demain, alors la manière de prendre garde, qui s'appelle la vigilance. La vigilance. Amen. Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons prendre modèle de Jean-Baptiste que l'Écriture nous montre dans une complète humilité. Cet homme qui avait reçu une mission merveilleuse, être le héros marchant devant le grand messager de l'Alliance, devant le Messie, lui qui avait eu ce rôle merveilleux, ayant été baptisé dans le Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Notre Dieu, pourtant, il pouvait, lui, être humble et se retirer pour laisser toute la gloire à celui qui venait derrière lui, mais qui l'avait précédé. Seigneur notre Dieu, que nous soyons dans la même pensée et que nos cœurs puissent se résoudre dans une humilité de même mot, de même nature, notre Dieu, que nous laissions le Seigneur là, en grande lumière, mais que nous nous retirions pour que toute la lumière soit sur lui, sur son œuvre, sur son amour, et que tous le voient ainsi, pour pouvoir dire, comme les habitants de Sichem, depuis que nous l'avons entendu, nous croyons en lui, non pas à cause de toi, ni de ce que tu nous as dit, mais parce que lui-même, nous l'avons vu. Permets-nous d'apporter le Seigneur ainsi, notre Dieu, et nous de rester à l'arrière-plan, afin que nous soyons, comme dit l'Écriture, glorifiés, mais dans le Seigneur. Au nom de Jésus, amen.